France Culture. Les Midis de Culture. Marie Laborie.
En regardant Tardes de Soledad, on pense à un autre film d'Albert Serra, La mort de Louis XIV avec Jean-Pierre Léo, en monarque à l'agonie, une agonie filmée au plus près, au plus vrai du corps, comme celle des taureaux que Serra a filmé dans les arènes. Il filme aussi la solitude de l'homme et de la bête. Reste que la corrida est de plus en plus critiquée, même en Espagne. Qu'est-ce que le réalisateur de Pacifiction a voulu nous dire avec ce documentaire qui sort mercredi prochain sur les écrans? Eh bien, on va en parler avec lui. Bonjour Albert Serra.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture. Votre nouveau film Tardes de Soledad, Après-midi de solitude, est un documentaire qui suit un jeune mais déjà très grand torero, Andrés Rocarrey. Il a 28 ans, il est péruvien, ce qui est assez important dans son travail, dans son milieu, on va dire. Et c'est vraiment une star, c'est une star de celles qui remplissent les arènes à nouveau aujourd'hui. Dans votre film, on le voit plusieurs fois être attrapé, blessé même hein, par le taureau. Et j'ai lu que depuis la fin du tournage, il a été à nouveau blessé dans les arènes de Madrid en octobre dernier.
Oui.
Comment il va?
Non, il va très bien. Ça s'est récupéré de cette dernière blessure, mais bon, ça fait partie un peu de son travail et on le voit très clairement dans les films.
Oui, oui, c'est très clair. Vous prenez de ces nouvelles? Vous êtes en bon terme tous les deux aujourd'hui?
En bon terme, mais moyen, on pourrait dire, parce qu'au début, lui, il n'avait pas aimé les films du tout. On s'est, je dirais pas disputé, mais on est resté un peu, comment dire, séparés. Même si jamais on a été unis avant, parce qu'en fait, j'ai fait le documentaire et j'ai parlé avec lui que 2 fois dans ma vie. Une première fois pour le convaincre, très rapidement, il a dit oui, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, encore aujourd'hui. Et la deuxième fois, à moitié du tournage, parce que le tournage a duré 1 an et demi, et lui, il hésitait parfois de se mettre le microphone sans fil. Tous les assistants, la quadrille, non, il le faisait, mais lui, parfois, il était plus superstitieux, je ne sais pas, et il rejetait de le faire. Et moi, évidemment, parce que c'était très important pour nous, surtout quand il est tout seul, non, à milieu de l'arène, non, j'essayais de lui reparler et d'essayer de le convaincre de porter le microphone plus souvent. Et bon, il a accepté un peu quand même, mais à part de ça, je n'ai jamais parlé avec lui, même pendant les tournages, quand on était dans la chambre, dans la voiture, dans l'arène. Et on se serrait parfois la main 2-3 fois et jamais échangé un seul mot. Alors, on n'était pas très unis pour se séparer. Mais en même temps, c'est vrai que il a été un peu choqué quand il a vu les films. Et bon, on a parlé un peu de ça. C'était pas un montage fini, sans les sons faits, sans les sons édités ou mixés. Mm-hmm. Alors, c'est difficile dans ces conditions de vraiment apprécier les films. Mais bon, en tout cas, il avait des petites remarques. Il y avait 2 visions, on pourrait dire. La vision de lui qu'il regarde son propre image et qui s'inquiète pour son travail, pour lui-même, pour sa performance. Et l'autre, c'était une vision, la mienne, que je m'inquiète pour les films en tant que, comme dire, œuvre d'art autonome, œuvre d'art artistique autonome. Alors, bon, là, il y avait des visions très opposées et on s'est laissé faire, on s'est séparé un peu. Il ne voulait pas participer à aucune promotion du film. Alors, il considérait que le film, d'une certaine façon, je ne sais pas, il ne faisait pas justice à ce qu'il faisait. Mais bon, petit à petit, les films ont des succès, malgré tout, je pense que tous les critiques, même les spectateurs, que les films viennent de sortir en Espagne, apprécient l'honnêteté du film. Et là, il a, comme dire, je pense, à travers un peu son agent, non, son impresario, il a récupéré un peu la confiance avec les films et il s'est senti que quand même les films faisaient un portrait complexe, riche et honnête de la tauromachie.
Alors, vous avez évoqué ces fameux micros sans fil. Ouais. C'est très important dans ce documentaire qui est vraiment centré sur un quasi corps à corps entre le torero et le taureau. On ne voit pas les gradins, on ne voit pas le public. Il n'y a pratiquement pas de plan large. On est vraiment alors aussi du coup au plus près de la violence, de la douleur, de la souffrance, du danger. On va écouter un extrait qui se déroule pendant une passe en fait de Rocarrey.
Ah hey. ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Amo!
¡Ey!
¡Ah! ¡Amo!
¡Ey!
¡Ah! ¡Mira, toro!
¡Palante! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
Voilà, un extrait de Tardes et Soledad. Albert Serra, là, on l'entend bien. Ça, moi, j'avais jamais vu ça, des micros HF posés sur le torero, les peones, c'est-à-dire la quadrille, ouais, l'équipe qui est avec lui. Qu'est-ce que ça apporte, ce son-là?
Bon, deux questions là. Oui. Une, c'est les dialogues qu'on n'a jamais entendus parce qu'ils sont tellement éloignés, non, des gradins. Et même que moi, quand j'étais dans les couloirs de l'arène, je n'entendais jamais rien parce qu'ils parlent entre eux. C'est impossible d'entendre ça. Et ça, c'est une question. Et l'autre, évidemment, c'est les sons. C'est les sons du taureau, de la respiration du torero, du taureau. Tous les côtés les plus physiques, les plus intimes, les plus. Qui donnent une tension supplémentaire, parce que ça, c'était une de mes obsessions. Dans l'arène, peut-être si on est dans les gradins les plus hauts, on voit presque rien. Mm-hmm. Mais on sent beaucoup de choses. Dans les corps, il y a aussi une tension permanente. Il y a, comme dire, une espèce de défi moral aussi, pourquoi pas, peut-être spirituel. Et on est là en train d'être touché pour ce qu'on voit, d'une façon ou de l'autre. Mais dans les captations live qu'il y a encore aujourd'hui, on ne sentait absolument rien. Et c'était assez, comme dire, c'était presque une captation pour aficionados ou c'était pour voir les différences entre un torero et l'autre. Et là, moi, ce que j'ai modestement essayé, c'était de voir placer la caméra. Utiliser la caméra pour voir qu'est-ce qui se passe là réellement au cœur de la corrida et c'est qu'on n'avait jamais vu parce qu'on n'avait jamais eu cet accès si proche avec les sons, avec l'image aussi parce qu'on a réfléchi beaucoup et c'est un peu ce que je maîtrise de tourner avec plusieurs caméras, je l'ai fait toujours avec mes films précédents de fiction et vraiment trouver la puissance de cette caméra qui sont capables de dévoiler ou de révéler l'invisible, des choses que les yeux humains ne pourront jamais voir. Alors, dans cette proximité, on a compris qu'on commençait à sentir des choses en tant que spectateur au montage et que probablement cet public que vous avez dit qu'il est éliminé du film s'est transformé avec le public au cinéma qui arrive ça, à vraiment rentrer au cœur de la tauromachie et à comprendre, je pense, qu'est-ce qu'il y a là ou qu'est-ce qui se passe. Et moi aussi, il y avait l'objectif de dire pourquoi ça, ou pourquoi ça se passe ça, ou pourquoi aussi le torero lui-même, il arrive à faire ça aujourd'hui dans les 2025. Mais ça, c'est une autre question plus difficile à répondre. Et comme j'ai fait confiance qu'à les images, c'est les images qui doivent nous donner la réponse. Et ça, c'est plus compliqué, les pourquoi. Mais au moins, les comment, oui, les voit et on les voit d'une façon assez, je pense, assez riche et assez, comment dire, détaillée, même, évidemment, avec un petit peu d'arbitraire artistique qui vient de moi, un peu, comment dire, sophistiqué ou raffiné.
Mmh. Alors, ce qui est intéressant, je reviens au son, on va aller un peu sur le pourquoi, si on peut, tout à l'heure, mais pour revenir au son, ce qu'on découvre et qui est... Moi, j'avais pas remarqué dans les corridas que j'ai pu voir ou voir à la télévision, c'est qu'on est loin du cliché du taureau qui sublime l'animal et qui l'adore et qui lui porte une vénération. Ça, c'est vraiment le cliché de l'art tauromachique. Non, là, on les entend l'insulter, le taureau.
Oui, c'est un peu un hasard, parce que par hasard, on a été obligé à utiliser des corridas dans les grandes arènes, les journées
Madrid,
des grandes...
Madrid, Séville, Bilbao.
Madrid, 2 à Madrid, Séville, et on était, c'est-à-dire, c'était par hasard des soirées très compliquées. Très, très compliqué, avec des taureaux très difficiles, et ils sont presque tous les corridas, ou tous les corridas qu'il y a dans les films. Alors, c'est normal que quand les taureaux, comme dire, pour de son point de vue, il y a un côté ignoble, non, au niveau de ça, de la bravoure, etc., eux, ils ont beaucoup de peur, et commencent à, bon, finalement, c'est un combat, non, il faut résoudre ces problèmes, et de la façon la plus, comment dire, la plus expéditive, parce que c'est très risqué, comme on voit dans les films, mais parfois, j'ai vu, et j'avais enregistré aussi des autres corridas où les taureaux sont un peu plus aimables, où il y a ce respect que vous disiez, parce que ça permet l'expression du torero, ça permet de s'exprimer d'une façon, comment dire, plus harmonieuse. Mm. Vraiment, cette symbiose entre les taureaux et le torero, ça se passe d'une façon, comment dire, il existe une vraie communication entre les deux, l'animal, la bête, non, et l'homme, et là, non, ils ont une attitude légèrement différente, mais malheureusement, dans les cas du film, tous les taureaux, c'était des taureaux très compliqués. Je sais pas.
Alors, on les entend aussi donc beaucoup parler entre eux, ouais. avec la quadrille, avec toute l'équipe qui est autour de lui, et notamment dans tous les déplacements qu'ils font en van. Voilà, ouais. Vous avez posé une caméra et les micros sont sur eux. Et c'est une espèce de cour qui se met en place. Ouais. Et il le complimente, il le vénère complètement, ce
taureau. Il y a un côté... Moi, j'aime ça parce que c'est un peu le mélange des deux atmosphères différentes. Ouais. C'est les atmosphères, ce sont les atmosphères que j'ai déjà dans mes films fiction, ou des atmosphères, des mélanges, des atmosphères presque impossibles, parce que d'un côté, comme vous insinuez, il y a un côté presque grotesque ou ridicule.
Il y a cette petite cour, oui, il y a quelque chose comme ça.
Des éloges complètement démesurés, même un peu vulgaire, etc. Mais à côté de ça, il y a aussi une vraie admiration. Vous devez penser que la plupart, pas tous, mais je dirais la plupart, 90% des gens qui font partie des quadrilles, ce sont des matadors frustrés, d'une certaine façon, et ils comprennent la difficulté, ils comprennent l'exigence psychologique, mentale, physique, la capacité de supporter certaines tensions, aussi évidemment le courage, qui est indispensable pour ça. Alors, ils ont, malgré la forme un peu comme ça, bizarre avec laquelle ils expriment cette admiration, l'admiration derrière est réelle. Oui. Et c'est très beau de voir les images, de voir les visages des gens, avec la façon qu'ils observent, ils admirent les toreros, et après le côté bizarre les contenus de ces phrases. Mais il y a un contraste là.
Il y a un petit truc homo-érotique aussi, moi je sais.
Évidemment, ça a été toujours là, le côté féminin, je pense que c'est bon. essentiel dans la corrida. On ne parle pas seulement du costume, on parle aussi de la façon de torer, c'est-à-dire le torero doit faire le minimum de mouvements, le plus sensuel possible, le plus gracieux possible, tu sais, vraiment soumettre la force de l'animal avec une sensibilité, une délicatesse qui a une origine un peu, féminine, on pourrait dire, qui est d'accord avec ce costume qui est aussi étrange, paradoxal, en plus il est très inconfortable
pour faire
une activité physique, c'est-à-dire, on dirait ça ne sert à rien, ça, on devrait être avec un costume de sport, mais non, c'est un costume qui est presque une armure, qui est très coincé et qui ne te permet pas de bouger de la façon la plus facile. Alors, ce sont des paradoxes là, mais ça fait partie un peu du côté plastiquement, un peu, énigmatique de la corrida, et aussi intéressant du point de vue plastique, parce que y a ce côté un peu baroque, un peu exagéré, un peu rechargé dans tous les éléments.
Alors pourquoi vous avez choisi la corrida comme sujet de premier documentaire? Corrida, on le sait, qui est un sujet controversé, même en Catalogne, votre province natale.
En Catalogne, c'est interdit. D'ailleurs, mais par hasard, je ne sais pas. Il y avait une amie à moi qui était le patron d'une espèce de l'université, d'un master de documentaire créatif, et m'insistait tous les années de dire il faut que tu travailles avec nous. Travailler, ça veut dire que tu fais un documentaire avec eux, tu prends les étudiants comme stagiaires, tu montres notre façon de travailler, etc. Mais je disais, j'ai pas de sujet, j'ai rien d'intéressant, je trouve rien à côté qui me donne envie de documenter ou qui, où il y a vraiment, la possibilité de, la possibilité de mettre la caméra et que la caméra par elle-même peut dévoiler quelque chose. Normalement, il y a beaucoup de documentaires qui sont faits avec des idées. J'ai pensé ça sur ce problème ou ce sujet, tout ça, et on va y aller, on va, parce que tu as déjà détecté qu'il y a quelque chose et tu as déjà un avis, une opinion. Moi, non.
C'est comme pas comme ça que vous travaillez.
Non, mais... comme mes films précédents, j'ai rien à dire. J'ai fait toujours cette phrase qui est un peu quand même radicale, mais c'est vrai. Et je prends cette attitude aussi dans les films fiction hygiéniques pour vraiment être avec la curiosité et surtout l'innocence, que c'est, pour moi, c'est le plus important parce que c'est ce qui aide plus à éviter les clichés quand ils tournent avec les acteurs, avec la direction d'acteurs surtout. Mais ici, aussi pour les documentaires, j'ai trouvé que c'était complètement apte, cette attitude, parce que, si on utilise la caméra, c'est parce que la caméra va me dire aussi à moi-même quelque chose que je ne connais pas. Sinon, si j'ai des idées, que je sais déjà qu'est-ce que je vais dire, je vais écrire un livre. Mmh. J'ai pas besoin de la caméra pour me surprendre, pour me montrer des choses que je connais pas. Alors là, vraiment, le côté recherche qui est essentiel, je pense, dans un documentaire, c'est fait vraiment de zéro. Et comme le sujet, comme vous avez dit, c'est controversé, c'est très difficile, évidemment, il y a un côté évident de cruauté, de violence, non, qui semble n'être pas d'accord avec l'évolution de nos temps, ou pour certaines personnes, évidemment. Là, il y a encore un autre mystère, de pourquoi, non, c'est pourquoi qu'on a parlé avant, non, pourquoi ils font ça, pourquoi ça existe encore, etc. Et là, évidemment, il ne sait rien, parce qu'il faut aller vraiment, pas à demander, mais à observer les protagonistes de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière, non? Et j'essayais de le faire avec le maximum d'honnêteté. Ça ne suffit pas, finalement, pour plaire au torero. Mais au moins, au début, on va voir. Je pense aussi que les films sont faits pour le long terme. Tu sais, parfois, tu as une impression au moment qui est trop liée à l'actualité ou à la première impression que tu as d'un film. Et après, ça change un peu, tu vois, non, des autres détails.
La corrida est c'est une mise en scène, hein, déjà, faut le dire. Oui, oui. C'est un spectacle, la corrida en
c'est
soi.
C'est ça qui le donne le côté artificiel, qui était aussi très, très important dans mes films précédents. Et là, il va de soi, c'est-à-dire l'artifice, la fantaisie un peu. Il est là, alors je ne devais rien ajouter. C'est pour ça que j'ai choisi un peu ce sujet, parce que du point de vue plastique, ça aide beaucoup donner une fascination visuelle. Et ça donne même un côté hypnotique dans les images.
Bah justement, c'est ce que je voulais vous demander. C'est-à-dire que vous avez choisi donc ces plans serrés. Et comme vous le dites, effectivement, quand on est en haut dans des gradins, on ne voit pas, on n'entend pas, on ne sent pas forcément. Alors, votre film est loin d'être simplement un décalque de ce qui se passe dans une arène. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus que ce qu'on pourrait voir en étant un spectateur?
Bon, déjà des images inédites, un accès inédit, complètement inédit au son et aux images. Mais en même temps, évidemment, on était obligés à créer des images, nous. On n'était pas là aussi pour faire une captation. Oui, faire une captation, mais il y a beaucoup de façons de faire une captation. Comme vous disiez, avec des plans ouverts, serrés, je ne sais pas. Et là, chaque opérateur, même dans son créativité personnelle, parce que tu ne peux pas prévoir si ça va arriver où dans l'arène. Une avec trois caméras ou quatre caméras, et tu ne savais pas qui va avoir le bon angle, qui va avoir la bonne position, qui va, tu sais. Alors, c'était vraiment chaque opérateur caméra. Ce sont des gens toujours qui ont travaillé avec moi dans mes films précédents, parce que je tourne toujours depuis le début avec trois caméras. Alors, qui devait vraiment, comme ils ont fait dans les films fiction, mais là encore avec plus de précision ou plus de créativité. Parce que, au moins, dans un film fiction, on a un petit scénario, on a des idées, il y a un peu plus d'idées quand même. Parce que j'écris un scénario, alors, bon, il y a des décors, il y a des costumes, on sait plus ou moins comment sont les personnages. Là, on sait tout ça, mais on ne sait rien de ce qui va arriver dans l'arène. Alors, le côté créatif, le côté être vraiment, du point de vue technique aussi, être vraiment précis, c'était très important, et c'était chaque opérateur qui avait la pression vraiment de chercher des images. Mm. Parce que les images sont là, tu pourrais tourner n'importe quoi, mais de chercher des images dans le sens que les images montrent quelque chose qui, je sais pas, qui a aussi une puissance cinématographique, c'était ça. Et les opérateurs avaient beaucoup de pression à cause de ça. Parce que, comme moi, j'ai rien à dire, je savais pas qu'est-ce que je voulais trouver. Alors, je voulais trouver des bonnes images, des images qui fait penser, des images qui sont troublantes, qui sont un peu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'images de violence dans les films, et de la mort du taureau, des plans très serrés, très longs, parce que finalement, les opérateurs, ils ont commencé à voir ça, ils ont dit, mais ça, c'est vraiment perturbateur, en plus, tu sais, ça fait partie intégrale de l'essence de la corrida, et ils ont commencé à, évidemment, ils voulaient pas éviter, parce que ça les perturbait, c'était des images fortes, et des images très violentes, très crues, mais sans ça, tu sais, les portraits de la corrida, ce n'est rien, tu sais, ça serait faux. Alors, petit à petit, on a trouvé la sang, la présence de la sang aussi, ça donne une espèce de. C'est un peu triste de le dire, mais c'est vrai, du point de vue plastique, ça donne.
C'est une esthétique, espèce
de,
oui, le son.
C'est une espèce de colère, surtout quand il y a la lumière artificielle en fin de journée. ça donne une couleur. Bon, ça, c'est... Et nous, on était là, et ça, il y avait un côté plastique, un côté, évidemment, moral, non? Et les films donnent beaucoup d'espace à les spectateurs parce qu'ils essayent de, comment dire, reproduire un peu ce côté rituel, répétitif, etc., de la corrida, et dans beaucoup d'espace pour la réflexion, pour, non? Pour vraiment intérioriser tout ce qui se passe là. Et bon, finalement, c'est ça, c'est un film assez honnête où j'essayais d'équilibrer tous les éléments qu'on a captés avec la caméra, soit la violence, soit les côtés peut-être spirituels, les côtés plastiques, les côtés humains.
Le côté spirituel, ce serait quoi ?
Je ne sais pas. il y a la métaphore. Ça, c'est le plus difficile.
Ouais.
Non, non, parce que la corrida, pour les toreros, symbolise quelque chose qui est ça, une espèce de métaphore du monde, et du monde actuel même, de la violence dans le monde, et de la vie et la mort. Et, non, et cette, comment dire, cette combat éternel. Et là, non, il y a un moment où il y a un torero, quand il était blessé, il essaye de se récupérer un peu dans l'arène, et il vient l'autre, non, des assistants, et il dit c'est ça, la vie ne vale nada, la vie ne vale nada, c'est-à-dire la vie ne pèse rien, ne pèse rien, non? C'est-à-dire, il faut mépriser la vie, il faut jeter la vie, il faut la, tu vois, pour en faire quelque chose de grand, pour l'utiliser, pour faire quelque chose avec elle. C'est pour ça qu'on ne peut pas être obsédé pour la conservation de la vie, non? Là, évidemment, c'est une vision du monde très radicale, mais c'est ça qui est une espèce de métaphore aussi de beaucoup de choses. Dans le monde d'aujourd'hui, on voit que, tu sais, c'est pas une métaphore, là. C'est la réalité de cette côté puissance. C'est que dans l'arène, on fait comme une espèce d'allégorie, non? D'allégorie cruante, comme j'ai dit, parce que c'est évidemment un rituel très désagréable, un rituel sacrificiel, non? Et ça, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est une espèce d'allégorie, bon, beaucoup moins grave, non, que la réalité qu'on suit dans les actualités tous les jours.
Alors, c'est une allégorie du combat de l'homme contre l'animal.
Ouais, et aussi de la condition animale et de la condition humaine, parce que là, il y a un processus, si vous voyez dans les films, d'animalisation de l'homme.
C'est vrai, non, qu'il devient presque un taureau, lui.
Devient presque un taureau, non, avec une espèce de puissance et de force presque irrationnelle, etc. Et par contre, il y a une mélancolie, une humanisation, et c'est pour la première fois que je pense que les taureaux vraiment ont la place du sujet dans un film, avec tous ces plans qui vous regardent la caméra, et vraiment, il y a un côté mélancolique, un tristesse vraiment prémonitoire de cette, comment dire, de cette innocence non, de la bête, malgré tout, d'une bête puissante, d'une bête qui a été toujours symbole de ça, de la puissance, de la force, etc. Mais qui, en même temps, il y a un côté, comment dire...
C'est une bête condamnée, de toute façon,
oui,
on le sait.
Une bête condamnée d'une humanisation, tu sais, de ça, de la mélancolie. Et tous les films, ça se passe, il y a pas mal de moments du film qui ça se passe dans les yeux du torero et les yeux de la bête. Et en fait... Tu sais, l'idéal, c'est cette symbiose de les deux, quand ça arrive dans les bons moments. Évidemment, il y a la partie finale, qui c'est l'amour, mais...
Ça passe quand même, effectivement, ce combat de l'homme, ce combat ancestral, mythique, passe par l'anéantissement quand même de l'animal.
Oui, 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 je sais pas, c'est la tradition espagnole, ouais. Surtout, il y a des odiers à Portugal et tout ça, mais dans l'Espagne...
Oui, au Portugal, il n'y a pas la mise à mort de...
Mais, c'est ça, le côté sacrificiel, ça fait partie intégrale et... Bon, et c'est ça qui les rend étonnants, un peu étonnants et ça, perturbateurs et un peu désagréables, très désagréables parfois. Mais et on comprend, non? Je comprends tous les spectateurs qui étaient ça, etc. Mais il faut les comprendre dans le contexte.
C'est aussi un monde d'hommes que vous nous montrez. Il y a une femme, on l'aperçoit, et c'est des hommes qui se valident beaucoup entre eux, c'est-à-dire qu'ils se disent il faut avoir des grosses couilles, ils sont vachement là-dedans quand même.
Pour moi, ça, c'est un peu, ça fait partie de ce côté grotesque.
C'est le côté farce que vous aimez
le
dans votre
farce,
travail.
Oui, qui est moins réel, beaucoup moins réel que prévu. En fait, dans les images, comme je vous ai dit, ça contraste profondément cette phrase qui sont complètement grotesques, vulgaires et tout ça, mais avec une attitude qui est beaucoup plus délicate et beaucoup plus... Parce que ça, c'est combiné toujours avec des dits, ah, hijo mio, il les touche comme ça, un poquito
c'est
de agüita.
Beaucoup, oui,
c'est bien, comme dire, une espèce de douceur tout le temps. Vous avez dit aussi un côté homo-érotique.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est vous ou moi.
Mais, on l'a dit tous les deux.
c'est vrai aussi, ça existe. Il y a une fascination un peu pour ça, c'est clair. Mais c'est, je sais pas, il y a de l'ambiguïté tout le temps. Je vois beaucoup d'ambiguïté à ce niveau de courage. Non et bon, c'est ça qui rend les films fascinants, parce que tu n'arrives jamais à comprendre exactement les pourquoi qu'on disait au début.
C'est quelque chose que vous aviez déjà dit en interview, c'est que vous aimez être surpris par ce qui va se produire dans l'image et que quelque chose vous échappe. Alors non, là, si on devait dire, qu'est-ce qui vous a échappé, là, que vous voyez maintenant, que vous n'aviez pas vu du tout?
D'abord, par exemple, là, même après avoir monté le film moi-même, je ne sais rien du Torero. Je le connais exactement maintenant, exactement au même niveau qu'au début de commencer le montage, au début de tourner le film. Je ne sais rien. Il y a une énigme vraiment très profonde, là. Et vraiment, c'est étonnant, non? Où les potentiels d'ambiguïté déjà naturels de toutes les images, que normalement on réduit, on schématise avec des scénarios un peu bêtes, etc. Là, ça reste dans toute sa puissance. Et même les images arrivent pour créer finalement plus d'opacité, pas pour nous enseigner, pour nous rendre transparent quelque chose, mais au contraire pour le rendre plus opaque dans son ambiguïté naturelle. Et là, c'est très clair dans ce cas, parce que c'est un cas extrême dans le monde d'aujourd'hui, non? Cette espèce de tradition si violente et tout ça, mais en même temps fait avec cette espèce de sentiment du déboire. C'est paradoxal, c'est presque absurde, c'est contradictoire. Je sais pas, l'image encore n'arrive pas à séparer les éléments.
Et en fait, on en arrive à cette fameuse vérité, la verdad, il n'arrête pas d'en parler.
Oui, pour eux, c'est très important, parce que, comment dire, c'est lié à cette idée de comment dire, pas prendre un avantage caché. C'est-à-dire, il faut s'exposer. Il faut vraiment s'exposer au péril, il faut s'exposer au risque d'une façon, il n'y a pas de raccourci là. Alors, pour eux, c'est très important, une phrase très belle qui remet à la poésie populaire ou même à les certaines poésies de Lorca. Il dit que quand il s'est croisé en face du taureau, petit à petit, il dit « Eso es, los frentes de l'alma ». Les fronts de l'âme. Le front de l'âme. C'est une espèce de métaphore étrange. Mais considère que tu dois montrer les fronts, c'est-à-dire plus tu montres et tu es en position frontale de face avec le taureau, plus dangereux il est, plus, non? Alors, mais ça, c'est le front de l'âme, c'est-à-dire que tu vraiment t'exposes au maximum même au niveau de ton âme.
Merci Albert Serra. Votre film Tardes de Soledad sort mercredi prochain sur les écrans. Et Andrés Rocarrey sera au Feria de Pâques à Arles dans la corrida du 20 avril. Et nous, ça nous a donné envie d'écouter Jacques Brel, Les Taureaux.
Les taureaux s'ennuient le dimanche quand il s'agit de courir pour nous. Un peu de sable, du soleil et des planches, un peu de sang pour faire un peu de boue. Mais c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Don Juan, c'est l'heure où les Anglaises se prennent pour Monterland. Ah, qui nous dira à quoi ça pense un taureau qui tourne et danse et s'aperçoit soudain qu'il est tout nu. Qui nous dira.
Les Midi de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Lise Ripoche, Tom Hundenstock, Boris Pino, Oriane Delacroix, Issa Tundoy, Louis Cosnard, Zora Vigny. Elle est réalisée par Laurence Malonda avec Élise Leu à la technique. Oui.